Donc vous êtes reliés tous les trois par des romans qui parlent de l'Afrique soit de façon directe et immédiate, soit de façon plus lointaine, mais enfin en tout cas qui manifeste un réel attachement pour les odyssées souvent tragiques de ce continent. Je vais commencer par faire des présentations assez rapides. Gabriel Badamossi, qui est là-bas au bout, vous êtes poète, dramaturge et essayiste, vous vivez à Londres. Vous êtes né d'une mère irlandaise et d'un père nigérian. Vous avez étudié à Cambridge. Vous avez fondé une compagnie de théâtre. Vous avez été directeur littéraire auprès d'un festival de théâtre. Et puis vous avez, grâce à des bourses, beaucoup travaillé en Afrique et aux Antilles. Votre premier roman s'intitule Vauxhall et il vient d'être traduit aux éditions Zoé par Elisabeth Gilles. Alain Mabankou, donc né à Pointe-Noire, qui est le creuset de votre inspiration, vous avez fait en France des études de droit des affaires. En 2001, vous avez quitté la France pour les États-Unis, où vous êtes aujourd'hui professeur de lettres à l'Université de Californie à Los Angeles. Et parmi vos derniers livres, je ne vais pas tous les citer, mais il y a eu en 2005 Vers Cassé, qui a reçu le prix des 5 continents, Mémoire du porc épic en 2006, prix Renaudot. En 2009, Black Bazar, un essai en 2012, Le sanglot de l'homme noir, et puis le dernier en date, celui dont on va parler aujourd'hui, paru au Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, Petit Piment. Dino Mangestu, né à Addis Abeba, en Éthiopie. Vous êtes parti vivre aux États-Unis avec votre famille très petit, vous aviez 2 ans. Vous avez fait là-bas vos études, à la Columbia University. Vous êtes l'auteur du roman Les belles choses que porte le ciel, qui a été traduit par Anne Vick chez Albin Michel, dans la collection Terre d'Amérique, qui a reçu le prix du meilleur premier roman étranger en 2007. Auteur également de Ce qu'on peut lire dans l'air, toujours chez Albin Michel. Et puis votre dernier roman s'intitule « Tous nos noms ». Il vient de paraître, toujours aux éditions Albin Michel, dans une traduction de Michel Albaret-Matz. Donc je le disais, le rapport à l'Afrique est très, enfin, il est très différent en fait dans vos romans. Soit c'est un rapport direct chez Alain Mabankou et chez vous aussi Dino Mangestu, soit c'est un rapport plus lointain chez vous Gabriel Badamossi. Mais avant d'entrer dans vos romans, il y a une première question un peu générale que j'aimerais vous poser. C'est la façon dont vous reliez votre travail d'écrivain avec le continent africain. Est-ce que vous êtes tenté de vous définir comme écrivain africain ? Et au fond, quel type de lien et de relation vous établissez entre votre travail d'écrivain, entre l'écriture et ce continent-là ? Comment ça se passe pour vous ? Dans quels termes vous situez la relation ? Qui de vous trois commence ? Dino, allez, c'est au hasard.
Si on commence avec moi, c'est parce que c'est moi, c'est mon français, c'était...
Non.
Des autres. Et pardon, parce que je suis un peu fatigué avec le décollage horaire entre New York et ici, c'est deux fois plus dur pour moi. Mais au début, oui, je sens que je suis un écrivain... pour moi, c'est dur pour dire que je suis juste un écrivain africain, parce que moi, je sens vraiment que je suis un parti de les États-Unis et Afrique, au même temps. Et quand j'écris sur l'Afrique, c'est toujours parce que c'est quelque chose que j'ai choisi. Je suis né en Éthiopie, mais au même temps, je suis complètement élevé dans les États-Unis. Et l'Afrique, c'est plutôt un parti de mon cœur. Et aussi, c'est un parti de choses que je pense étaient toujours très importantes pour moi. J'ai écrit sur l'Afrique parce que j'ai fait des reportages en Afrique. J'ai choisi d'être là-bas, j'ai choisi d'écrire sur les choses qui se passent en Afrique. Et le même temps, ça commence à être une partie de mon fiction, le même temps.
Ok, c'est bien, ça amorce les choses.
Ouais.
Qui continue? Gabriel.
Parce qu'Alain peut parler
de façon africaine.
J'ai dit à mon père, « Papa, je veux devenir écrivain. » Il m'a répondu, « c'est pas bon ça, parce qu'il y a des difficultés avec le pouvoir si on veut devenir journaliste. » J'ai dit, « Non, papa, un écrivain créatif. » Il a dit, « Ah, bien. » Alors, c'est pas un mauvais choix, quand même, il faut prendre un emploi. Et c'est ça un peu le lien entre l'écriture et la réalité africaine.
Et là, ouais. C'est intéressant la réponse de votre père. Alain.
Et son père qui pourrait être aussi le mien. Moi, c'était ma mère. Puisqu'elle est morte depuis en 95. Quand elle est morte, je n'avais publié qu'un recueil de poèmes à compte d'auteur. C'est au jour le jour. Elle n'est jamais allée à l'école, on lui amène le recueil, elle commence à fouiller, elle dit, il n'y a même pas des photos. C'est peut-être pour ça que j'avais écrit Lumière de Pointe Noire, un livre qui la magnifie, mais avec ses photos à l'intérieur. Parce qu'elle concevait jamais un livre sans photos, parce que tout ce qui est écrit peut cacher quelque chose. Mais sinon, nous avons en commun l'Afrique. Là, peut-être la seule différence, c'est qu'ils ont eu cette expérience déjà du monde avant moi, aussi bien d'être au carrefour, mère irlandaise, nigérian, d'Éthiopie, mais New York. Moi, j'ai fait le sens contraire, c'est-à-dire que étant né en France, en Afrique, j'ai vécu là-bas jusqu'à 20 ans, puis je suis venu en France, j'ai vécu en France 17 ans, puis aux États-Unis, ça fait 12 ans. Comme ça, vous calculez un peu mon âge.
Voilà. Tout le monde sent la calculette. Voilà.
Si ça
on colle, veut les résultats à la sortie. Hein.
Si ça colle bien, ça fait 49. Donc, jusqu'à présent, j'ai plus vécu en Afrique 20 ans et puis la France. Mais au bout d'un moment, peut-être que je me sens aussi la parenté avec eux. Parce que, Dina a vécu aussi en France, hein, ici, pendant un moment, lors du succès de son premier livre traduit ici. Et je pense que je me sens très proche d'eux parce que je suis de plus en plus adopté par eux dans le monde anglophone. Quand ils ont besoin d'un écrivain africain qui parle français, c'est toujours moi qui viens parler. Pourquoi ? Parce que je suis peut-être beaucoup traduit en anglais, c'est plus facile, et que je peux aussi m'exprimer dans la langue anglaise. Mais ça fait une richesse vraiment extraordinaire qui montre que la littérature même des originaires d'Afrique est devenue peut-être même plus libre, plus mondiale que la littérature franco-française qui reste toujours sur le bord de la Seine, sur les amours déçus avec le banquier. Ça, c'est autre chose. Oui.
C'est vrai, c'est intéressant ce que dit Alain, parce que pendant très longtemps, en Afrique, on cloisonnait les littératures anglophones et les littératures francophones. Par exemple, on pensait pas à organiser une rencontre comme celle-ci, réunissant des écrivains anglophones et francophones. Et ça, c'est le signe de quelque chose, quand même.
Mais ils ont été excellents, parce que vous remarquez, on avait des préjugés en disant que les anglophones n'aiment pas apprendre d'autres langues que l'anglais. Mais ces écrivains...
La preuve que non.
Voilà, ces écrivains ont quelque chose de neuf, c'est qu'ils... Ils savent maintenant que la langue française aussi est une grande patrie de littérature, ce qui permet de parler aussi bien en français, comme l'avaient fait à l'époque ici les James Baldwin qui s'est débrouillé dessus. Et c'est très important. Et nous aussi, écrivains africains ou français, il faut qu'on apprenne l'anglais pour avoir des échanges, sinon on ne se parle jamais.
Dino et Gabriel, par rapport à cette question-là, est-ce que vous sentez dans la façon d'aborder la question littéraire des différences quand même entre les écrivains africains francophones et vous ? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder l'Afrique, d'en parler, de la restituer, de la mettre en scène dans le roman, hein, en fiction, qui vous semble quand même différente ? Est-ce qu'il y a une approche différente ou pas ? Allez, partagez-vous la tâche tous les deux.
À l'époque, avec un certain éducation anglophone, on dirait que Léopold Senghor, par exemple, et toute cette histoire de la négritude, était confronté par exemple, les Nigériens, Wole Soyinka, qui étaient complètement contre une telle idéologie raciste. Ça peut être. C'était un système colonial en lequel les Français ont eu la générosité de dire tout le monde est est un Français. Parmi les Britanniques, non, pas du tout, mais si on fusait les colonies, nous sommes ici, faut tourner les pieds. Voilà. Ah bon, maintenant, on l'a dépassé. En ce moment-ci, je peux voir des opportunités parmi les francophones d'éviter les contrôles anglophones. Par exemple, ça continue un peu parmi les Anglais, sinon les gens des États-Unis. Parmi les Anglais, il y a un système en lequel on peut contrôler tous les morceaux d'une grande rue comme ça. C'est ici les gens d'Éthiopie, ici les gens du Jamaïque, là de l'Inde. Il faut qu'ils passent tout le monde à travers le centre. Et nous sommes les gens qui contrôlent. Et vous êtes séparés, une division. Et s'il y a quelqu'un comme moi, par exemple, qui vient de deux colonies, l'Irlande et Nigeria, je suis un peu hors de question. Et parmi les Français, les francophones, c'est bien possible que je peux ajouter quelque chose et éviter les contrôles. Vas-y,
Dino.
Pour moi, c'est pas une question de l'alliance entre les Africains francophones comme Alan et les écrivains africains américains comme moi. Parce que moi, quand je lis Alain, je lis plutôt l'écriture comme les gens qui se passent en France et en Europe en général. C'est pas parce qu'il est d'origine d'Afrique. Il écrit avec une richesse de langue, avec un style qui, moi, je trouve évident partout en France pour les écrivains africains, pour les écrivains français, pour les écrivains italiens. C'est pas une question de son origine. C'est plutôt de choses qui se passent, le style d'écriture en Europe. Il a beaucoup plus de liberté, je pense, en Europe pour le style d'écriture. Dans les États-Unis, quand on écrit un roman, normalement, ça se passe toujours avec une formule, mais avec un style d'écriture qui est un peu plus rigide. Mm. Et c'est pas du tout toujours le même en France, c'est pas du tout toujours le même en Europe en général. Et moi, je trouve que l'alliance, ça existe pour... ouais, je sais pas si ça.
Ok. On va revenir peut-être à ces questions générales tout à l'heure, mais d'abord on va présenter vos romans. Alors Alain Mabankou, Petit Piment, c'est un roman à la première personne. C'est un jeune garçon qui est orphelin de Pointe-Noire qui fait le récit de sa vie. Alors il y a une première caractéristique qui est très frappante et qui d'ailleurs vous relie tous les trois, c'est que ce jeune orphelin a un nom absolument invraisemblable, complètement imprononçable, un nom kilométrique que je ne tenterai même pas de prononcer, mais vous allez le faire.
Essayons quand même.
Non. Non. C'est tellement compliqué que finalement, on commence par le baptiser Moïse, hein, c'est voilà. Ça.
Pour faire tout court.
Pour faire simple, voilà.
Mais parce que son nom est très long et compliqué pour les Européens. Puisque c'est un nom en langue, en lingala. Mm. Donc, pour nous, puisque nous savons ce que signifie son nom, c'est simplement, c'est plus facile pour nous de dire il s'appelle Tokumi Sanzambi Pomosi Amoyindo Abotamina Mboka Yabakoko.
Voilà.
C'est un peu comme les voilà. Espagnols, quoi.
Voilà. Ça, c'est son nom.
Ça, donc, c'est son voilà. Nom, voilà. Donc, vous comprenez que je n'ai pas tenté de le prononcer.
Ce qui veut dire, son nom veut dire « Rendons grâce à Dieu, car le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres. » Voilà. Donc, mais pour faire court, on l'appelait Moïse, tout simplement.
Voilà.
Parce que c'était plus long. Et je vois que les journalistes ont du mal à prononcer, mais oui. On peut essayer un peu.
Non, mais je vais m'entraîner, Alain. Promis, la prochaine fois qu'on a une rencontre ensemble, je prononce, d'accord. Alors, ce petit garçon qui est donc orphelin grandit dans une institution qui est une institution catholique et qui est dirigée par un homme qui a une caractéristique qui, ma foi, est plutôt assez courante et banale en Afrique, c'est qu'il pratique la corruption. À tout va, donc ça vous permet d'introduire bien évidemment ce sujet-là, tout en le traitant de manière humoristique et légère, mais quand même, derrière, il y a bien la présence de la corruption.
Il y a la présence de la corruption, puisque c'est un orphelinat. Dans l'orphelinat, le directeur agit comme il était comme s'il était le président de la République africaine, bien sûr, puisque le personnel, c'est des cousins, l'oncle, puisque lui-même, il s'appelle Dionede Ngulmumako, l'autre aussi, Bisulu Ngulmumako. Ngulmumako, dans une autre langue africaine, ça veut dire « Dieu donné, plat de porc aux bananes plantain ». Donc ça, c'est son nom, Dieu donné. Mais parce que il est de l'ethnie Bembe, qui mange justement toujours le porc avec les bananes plantain. Et moi, il était plus facile de lui donner un nom lié à son ethnie et de lui donner effectivement le destin qui est là. Mais il pratique la corruption, il pratique un peu le pouvoir vraiment autocratique, et puis il traîne les enfants à la baguette, puisque c'est lui qui introduit le marxisme-léninisme dans cet orphelinat, en poussant les enfants jusqu'au bout.
Oui, parce que bientôt dans ce pays-là arrive le marxisme-léninisme, qui du coup va abolir complètement l'enseignement catholique, qui devient interdit. Par contre, on enseigne le marxisme-léninisme. Alors bien sûr, ça donne... dans les discours, une enflure absolument extraordinaire. Il y a un usage des mots toujours très emphatique. Et ça, vous en jouez, parce que pour un romancier, c'est un délice.
J'en joue, parce que l'avantage avec l'Afrique, c'est que vous ne chercherez pas les sujets. Si vous êtes écrivain, les sujets viennent à vous. Quand vous écoutez un président africain parler, c'est déjà tout un roman, puisque donc le directeur de cette institution, il veut les honneurs du président, donc il a créé un journal de l'orphelinat dans lequel c'est lui qui fait l'éditorial chaque fois. Mais en fait, on a vu que l'éditorial était fait par des nègres, c'est-à-dire des gens qui travaillaient pour lui, qui eux avaient étudié à l'école du parti, donc il y avait toujours les mots les plus empoulés. Ils utilisaient toujours ce qu'on appelle au Congo la gromologie, c'est-à-dire la science d'utiliser des mots comme les noms. C'est ça la gromologie. Donc un gromologue, c'est celui qui s'occupe de ça. Donc lui, il est vraiment celui qui veut faire de l'excès de zèle socialiste pour continuer toujours à avoir un bon œil par les présidents, évidemment, quand les choses vont tourner contre lui, et quand il demandera la solidarité des élèves, là, tout le monde ne sera jamais d'accord.
Alors, on ne va pas tout raconter, mais simplement dire qu'à un moment donné, Moïse va s'enfuir de son orphelinat, et il va se retrouver, comme beaucoup de gamins de Pointe-Noire, à survivre en commettant des petits larcins au marché, jusqu'au jour où la mairie de Pointe-Noire prend la décision d'assainir la zone. Voilà. Donc ça, c'est typique aussi des façons de procéder en Afrique. On laisse se développer toutes sortes de corruption ou de larcins dans la rue. Et puis un jour, c'est le grand nettoyage.
Oui, le grand nettoyage des prostituées dans la ville a touché mon personnage, tout simplement parce qu'après l'orphelinat, il avait été recueilli par cette dame qui s'appelle Maman Fiat 500. Donc voilà. Il a recueilli, c'est la Maquerel qui a 10 femmes zaïroises. C'est vraiment la grosse maman africaine qui regarde tout et qui nourrit parfois tous les enfants qui passent dans la rue. Et pourtant, elle est prostituée. Donc, Petit Piment se retrouve à l'intérieur. Et évidemment, il passe une bonne adolescence. Et cette prostituée qui lui trouve du travail auprès d'un des clients les plus importants de la maison, qui dit, bon, prends Petit Piment, mets-le manutentionnaire au port de Pointe-Noire. Petit Piment vit une vie agréable, maison, la parcelle. Et puis, il y a le maire qui fait l'opération Pointe-Noire sans pute zaïroise. Et c'est là que Petit Piment dit « Ah non ouais. !» Et donc, pour lui, c'est un deuxième échec qui va se passer là. Et il perdra peut-être la tête à cause de ça.
À cause de ça. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire que la prostitution est alimentée par la ville qui se trouve de l'autre côté du fleuve. Les prostituées viennent de la RDC, en fait.
Oui, ils viennent de Kinshasa. Puisque Kinshasa et Brazzaville sont les capitales les plus rapprochées. Si vous êtes à Brazzaville, de l'autre côté, vous apercevez le Zaïrois qui a une chemise rouge en train de passer, ou qui se gare, ou qui discute avec une femme au bord du fleuve pour lui lire des poèmes. Ça arrive, Mais bon. Donc, c'est les villes les plus rapprochées. Ce qui fait que ils sont aujourd'hui plus de 80 millions ou 100 millions pour bientôt, mais nous, on est 4 millions. Donc, il y a plus de possibilités. La monnaie était plus élevée. Le franc CFA était au-dessus du Zaïre de Mobutu. Son argent s'appelait Zaïre aussi. Et donc, les Zaïrois venaient chercher du travail chez nous. Évidemment, les prostituées se sont dit, pourquoi continuer à faire la prostitution au Zaïre où ça coûte moins cher, alors que si nous allons là-bas, le coût de la passe avec le coût même de l'argent, ça nous ferait plus. Ils sont venus chez nous, ils sont venus jusqu'à Pointe-Noire. C'est pour ça que le quartier dans lequel je vivais s'appelait le quartier 300, parce que la passe coûtait 300. Donc tout le quartier s'appelait quartier 300. Ils sont arrivés, c'est les Aïroises qui ont donné ce nom à ces quartiers, parce que quand elles sont arrivées, il y avait déjà les putes de chez nous, les Ponténégrines, mais la passe coûtait 500. Donc c'était trop. Les Aïroises ont dit, on baisse, vu que le coût de l'argent chez nous, on baisse à 300. Donc il y avait eu la guerre des prostitutions à cette époque-là, avec coup de matraque, les assises de caustique, tout, soude caustique, tout s'était passé. Et jusqu'à ce qu'à la fin, les Congolais ont dit, écoutez, vous vous calmez, laissez les Aïroises dans la population. Les Congolaises, puisque vous êtes trop chères, allez le faire au centre-ville chez les Blancs. Donc elles sont allées chez les Blancs, mais les Blancs venaient dans les quartiers populaires. Donc, voilà. Donc on a mis la passe à tout le monde à 300, et le quartier restait quartier 300, dans lequel se trouvait maman Fiat 500 elle-même.
Voilà. Bon, on va revenir à Petit Piment tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on introduise aussi les autres romans. Le vôtre, Dino Mangescu, donc Tous nos noms, est un roman qui est conduit à deux voix. C'est une alternance de chapitres qui nous font passer de Kampala, qui se trouve donc en Ouganda, qui est la capitale de l'Ouganda, à une petite ville des États-Unis qui s'appelle Laurel. Et Isaac, un jeune Africain qui se trouve donc dans cette petite ville américaine, a une caractéristique qui est en fait commune avec celle du roman d'Alain, c'est-à-dire que autour de son nom flotte un mystère total. Il a une identité extrêmement floue et en fait on ne sait jamais comment il s'appelle. Et ça c'est révélateur bien sûr de ce personnage, le fait qu'on ne sache pas comment il s'appelle.
Oui, c'est ça, c'est le petit mystère dans le livre. C'est parce que le nom, c'était une partie de son personnage, mais lui, c'est quelqu'un qui... Il a quitté son pays. Et au début, je pense qu'il était comme plein des immigrés qui arrivent dans les États-Unis. Avant les Africains, c'était les Italiens. Tu arrives dans les États-Unis, tu étais obligé de changer ton nom. Et ton nom, ça change avec ton identité. C'était une partie de ça. So, lui, il a quitté l'Éthiopie parce qu'il pense... Peut-être que je peux être un écrivain, et si pour être un écrivain, je suis obligé de changer pas juste mon pays, mais changer mon identité, changer mon histoire. Comme ça, je peux être un peu plus libre. Je peux peut-être construire une nouvelle histoire, pas juste pour moi, mais peut-être pour mon pays, pour moi aussi.
Ouais. Alors, à Kampala, il y a une histoire, il y a une amitié. Kampala est relié à une histoire d'amitié entre deux jeunes garçons. Alors, il y en a un qui est Isaac. Mais il faut pas dire la vérité des choses, parce que tout le roman repose vraiment sur cette histoire d'identité. Et c'est assez fascinant de voir la façon dont vous le développez. Mais il y en a un autre qu'on peut appeler Langston, parce que ça, c'est un hommage à Langston Hughes. Donc, il y en a un des deux qui est Isaac, et l'autre, on va dire Langston. En fait, il a plein de noms.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Langston Hughes, c'est peut-être l'occasion de rappeler qui c'est. Pourquoi ? C'est une façon de lui rendre hommage, le fait de donner ce nom au personnage ?
Oui, parce que c'est un hommage. Parce qu'en partie du livre, lui, il est en Kampala. Parce que dans les années 72, c'est un grand débat avec une conférence des écrivains africains avec Ngugi wa Thiong'o, Chinua Achebe. C'était juste après l'indépendance de Uganda. C'est dans cette période, c'est un petit moment dans l'histoire de l'Afrique, de Uganda en particulier, quand on pense pas juste à la politique, on pense pas de la guerre, on pense de la littérature. On pense peut-être maintenant on est libre de faire une autre chose. Tous les deux, ils ont en Uganda parce qu'ils ont envie d'être un écrivain, ils ont envie d'être les étudiantes. Langston, c'est un parti de ça. Tu es un révolutionnaire, tu peux être, si tu es un écrivain. Tu n'es pas obligé de juste être un soldat. Il y en a, peut-être tu peux aider avec une traduction.
Oui, Alain, vas-y, fais l'interprète.
Non,
5000 points.
Celui dit peut-être avec ça, j'ai peut-être un révolutionnaire, avec mon stylo, pas avec un fusil.
Pas avec un fusil, oui. Mais cette amitié entre ces deux jeunes garçons, tout se joue autour du campus de l'université de Kampala. C'est une amitié qui est confrontée quand même à l'histoire, parce qu'il y a une révolution qui est en train de se préparer. Ils vont être mêlés à ça, une révolution qui va être suivie bien sûr immédiatement par une prise de pouvoir d'une dictature. Et ça, c'est un thème mais qu'on retrouve vraiment très souvent. C'est presque un passage obligé des romans africains, l'évocation des révolutions et des dictatures.
Oui, j'ai envie pas de dire que c'est obligatoire. Pour moi, ça se passe dans le livre parce que j'étais plutôt fasciné par la révolution, mais par les gens qui ont envie d'être une étudiante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont en partie en guerre parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'avant la guerre, c'est plutôt les gens qui ont envie d'être une étudiante, qui ont envie de faire des études, mais ils ne peuvent pas. Et la guerre, ça commence en partie de ça. La guerre, ça commence parce que les gens, ils pensent qu'ils n'ont aucun choix. Et pour moi, ça, c'est plus intéressant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de guerre parce qu'on a juste les gens qui ont envie de pouvoir. On a la guerre parce que de temps en temps, on a des gens qui pensent qu'on n'a aucune chance pour construire une autre histoire pour notre pays. Et ça, ouais.
Donc, je le disais, le roman est construit donc sur deux voies. Donc, il y a l'Afrique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Donc, Isaac part aux États-Unis. Et là, il rencontre une assistante sociale, Hélène. Il y a une très belle histoire d'amour entre eux. Très, très belle. Mais c'est une histoire d'amour qui est condamnée d'emblée parce qu'il a un visa d'un an. C'est une histoire d'amour sans avenir. C'est peut-être ça qui la rend aussi belle, d'ailleurs.
Oui, oui, mais c'est une histoire d'amour un peu dure aussi, oui. Parce que, tu sais, avec ça se passe dans les années, dans les années 70, il y a beaucoup d'amour entre les deux, mais en même temps, c'est impossible de sortir ensemble. So, quand les deux, quand ils ont... quand il reste dans la maison, quand il a une vie très privée, l'histoire des morts, ça c'était possible, mais en même temps, quand il sait, quand il sort, il était obligé de voir le regard de tous les autres. Et c'était pas possible d'avoir une histoire avec un jeune noir et avec une jeune femme blanche à cette période.
C'est le sujet du racisme qui est bien sûr très présent dans le roman. Et vous dites que dans cette petite ville des États-Unis, c'est une petite ville, hein, c'est pas qu'il y a sur ce sujet-là des frontières qui sont invisibles et que tout le monde connaît.
Oui, c'est ça, parce qu'après un moment, on était fini avec le moment dans les années 50, dans les années 60, on a sur le panneau. Bon, si tu es noir, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Mais on était fini avec ça. Et maintenant, on reste et ça existe toujours avec nous, je pense maintenant aussi. On ne dit rien. Mais en même temps, on a plein d'autres façons de dire, toi, tu es pas chez toi, tu n'as pas le droit d'être ici. On ne dit pas avec les mots, on ne dit pas, toi, tu es le nègre, toi, le nigger. On a les autres choses. Et je vois ça toujours avec toutes les choses qui se passent maintenant dans les États-Unis, avec les jeunes noirs qui sont tués par les polices, avec toutes les choses qui se passent avec Obama qui dit, bon, ça c'est le président des États-Unis, mais il n'est pas né dans les États-Unis. On a les autres façons de dire, toi, tu es pas vraiment une partie de notre pays. Tu penses que tu es là, mais en même temps, ouais.
C'est ça, il n'a pas le droit d'être là. Et en plus, comme il est exilé, parce qu'il y a bien sûr le thème de l'exil, avec ce visa étudiant d'une courte durée, il n'a bien sûr aucun des repères nord-américains. Et ça le rend extrêmement dépendant en même temps, puisqu'il ne connaît pas les codes.
Ouais.
Il n'a pas les codes.
Ouais, il ne connaît pas les codes, mais en même temps, il comprend vachement mieux de cette femme, Helen, la différence entre lui et elle. Il comprend tout de suite son existence, c'est pas très simple.
Ouais. On va y revenir aussi tout à l'heure, mais je voudrais qu'on présente le roman de Gabriel Badam aussi, donc Vauxhall. Comme chez Alain Mabankou, c'est le roman d'une enfance aussi, parce que c'est, le narrateur est un tout jeune garçon. Je ne sais pas très bien quel âge il a, mais il est tout petit. Hein. C'est vraiment un tout petit garçon. Oui. Et il fait le récit donc, de sa vie. Donc, lui, il grandit au bord de la Tamise, à Londres, dans un quartier qui s'appelle donc Vauxhall. On est dans les années 60-70. C'est un peu la même période que dans le roman de Dino. Alors, la première caractéristique, bien sûr, de cette enfance, c'est que c'est une enfance qui se déroule dans un quartier extrêmement pauvre, extrêmement démuni. Le petit garçon vit dans une maison où il y a combien, 16 ou 18 personnes
hein?
18, voilà, c'est ça. Un jour, il y a quelqu'un qui vient pour faire un recensement. C'est lui qui ouvre la porte. D'ailleurs, après, il se fait... Et il dit, oui, on est 18 dans la maison. Voilà. Donc ça, c'est la réalité de la première réalité de ce petit garçon.
Il montrait aussi qu'il avait l'habilité de compter les gens.
Oui. C'est un petit garçon très vif, très débrouillard, hein, qui a un regard sur son environnement extrêmement vivace.
Ouais.
Alors, il a un père nigérian et une mère irlandaise. Bon, ça...
C'était une richesse.
Que vous connaissez bien.
Oui, c'était un peu... La situation dans le roman, c'est un peu comme la situation, l'environnement de mon enfance. Alors, je l'ai utilisé pour avoir une histoire comme si se déroule dans le roman. Quand même, ce que j'y dirais, c'est il y a ce qu'il partage avec les histoires, les bouquins d'Alain et
Dino.
C'est on m'a demandé de préciser le nom.
Absolument.
Alors j'ai ajouté Michael.
Voilà.
La vérité, c'était que nous sommes des Yoruba, des gens de Nigeria, et on a plusieurs noms. Et c'est une marque d'un certain. On est résiliente. À cause si on me coupe la tête en anglais. Je peux avoir une tête en Irlande, encore en Nigeria. Même mon père, il était musulman. Alors, à l'époque, pendant la période coloniale, il n'avait pas le droit d'entrer dans l'école. C'était mené par l'église protestante. Alors, il y avait un tout petit gars qui est mort, malheureusement, juste à côté, un voisin. Et c'était mon père qui se présentait à l'époque, à l'école, comme le petit garçon mort. Alors, il a eu une éducation effectivement européenne, c'est-à-dire avec une forme de compréhension de la monde qui est donnée par, comment s'appelle-t-il, les pensées
Pascal?
Non,
Montaigne.
Pas Pascal.
Montaigne?
Non. Lui qui a dit, je pense alors, je...
Descartes.
On dit cartésien.
Cartésien. Voilà.
C'est-à-dire, on est responsable pour les péchés, on est cohérent dans la confession, on a une identité singulière. C'était pas vrai pour lui. Il a pris cette éducation, mais il est quelqu'un d'autre. Il est plusieurs gens. Et pour nous, et aussi le petit gars de le roman, c'est bien possible d'avoir une identité anglaise, une identité nigérienne, yoruba, une identité d'Irlande. En même temps, oui, comme tous les cartes, comme ça. Alors, ça mène à une certaine richesse qui peut être placée en contraste avec la pauvreté d'une situation... Après la guerre, avec tous les terrains dévastés par les bombes, on jouait à l'époque. Je dirais aussi, à travers la question de l'expérience en Afrique du colonialisme. Ce que je dirais, c'est mon grand-père, il était fermier des cacao. Et c'était à cause de ça pour la construction des usines pour le chocolat en Allemagne que mon père est arrivé en Europe. Mais ce que je peux voir, c'est dans une société des agricultures, l'économie politique ne peut pas supporter un État moderne avec les armées, les policiers, les bureaucrates, les drapeaux, les ambassades très chères à l'extérieur. Tout ça, c'est insupportable pour les pauvres. Agriculture. Mm. Il y a des manifs en ce moment à Paris, je crois. C'est bien connu. Alors, à travers les taux, c'est une forme d'extorsion. Mm. C'est presque impossible de le survivre.
De survivre.
Pour le survivre. Survivre. Mm. Alors, c'est nécessaire d'avoir deux têtes. Mm. Une tête officielle, mm-hmm. pour lequel on prend une place dans une administration. Mm-hmm. Mais aussi, on a des responsabilités à une famille assez grande. Mm-hmm. Alors, c'est pas tout à fait une politique de la corruption. C'est une politique d'à quoi manger. Mm-hmm. Si on prend quelque chose d'ici, c'est une forme de dispersion mm-hmm. Dans un autre sens, mm-hmm. une autre manière. Alors, je ne suis pas tout à fait contente qu'on parle toujours en Afrique de la corruption, mm-hmm. comme si c'est les gens, les cultures, les sociétés qui sont corrompues. Mais c'est très difficile d'avoir une telle situation d'extorsion.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Je l'ai dit.
Oui. Excellent. Bravo. Il y a un thème qui vous est commun à tous les deux, Gabriel et Dino. C'est le thème du racisme. Mais autant dans le roman de Dino, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a des frontières invisibles, c'est-à-dire le racisme n'est pas dit, n'est pas formulé, autant dans votre roman, Gabriel, il est tout à fait explicite.
Ouais.
C'est-à-dire ce petit garçon qui grandit dans un quartier où il y a autour de lui des gens qui sont originaires d'Afrique, d'Inde, ne sait pas qu'il est noir ou métisse, jusqu'au jour où il est confronté au regard de quelqu'un qui pointe le fait que il n'est pas de la bonne couleur, voilà, entre guillemets. Il y a des phrases terribles qui sont prononcées dans le roman. Hein. Il y a des phrases terribles. Il y a un personnage qui dit à ce tout petit garçon, « Tu n'es pas chez toi ici, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas d'où tu viens ?» C'est une phrase invraisemblable. Mais vous l'avez entendue ?
Oui. Qu'est-ce que je peux dire à travers la violence du racisme à l'époque ? Ça continue dans un autre registre, dans les actions, les faits sociaux du chômage et tout ça, de l'éducation. Mm. Mais c'est un peu changé en ce moment. On ne se dit pas une telle chose à cette époque. Si, quand même, dans le passé, c'était évident à moi, éventuellement, qu'il y avait des problèmes. Sauf que j'étais déjà préparé en disant que si vous n'êtes pas Yoruba, on a quelque chose comparable à la pitoyer pour vous.
Mmh.
Oui. Et c'est un peu le même avec les gens d'Irlande, qui est une culture, ils disent que c'est une culture des ancêtres. Et même il y avait un ministère de l'éducation dans la nouvelle État, dans le nouveau État, une État, la nouvelle État, qui a dit il faut pas rééduquer les gens d'Irlande pour qu'ils peuvent perdre leur culture ancestrale. Ah bon? Alors c'était moi qui enseignais ma mère le mathématique. Pour compter les divisions, multiplications et tout ça. C'était moi, et pas l'école en Irlande. Parce qu'ils vivaient, ils vivent encore une culture en laquelle on est avec les morts, les esprits. On ne peut pas partager en ça comme un étranger. Alors j'étais bien préparé pour les petits racismes cartésiens des Anglais. Pas de problème. Pas de problème. C'est ça que j'y dirais.
Ouais. Il y a un bel exemple de ça dans le roman, le papa de ce petit garçon. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir un prénom pour lui, je suis d'accord avec vous. C'est un peu Bon.
C'était les Anglais.
Oui, ils ont voulu absolument, mais on n'a pas besoin. Bref, il s'appelle Michael, mais bon. Son papa, qui est donc nigérian, a des marques tribales sur le visage. Et lui, il ne sait pas que son papa a des marques tribales, parce que pour lui, c'est naturel, c'est évident et c'est normal. Il faut qu'un jour, quelqu'un lui montre et lui dise « Ah, mais qu'est-ce qu'il a, ton papa ?» pour qu'il réalise.
C'est comme une grande chatte. Ouais. Ah bon, ce que je dirais à propos de ça, c'est parmi les Yoruba, il y
approchez du micro.
Parmi les Yoruba, il y avait un grand empire qui s'appelait l'empire de Oyo. Et nous sommes des Yoruba propres, c'est-à-dire des Yoruba d'Oyo. Et mon père, il était aristocrate dans cette situation-là. Alors, il était marqué dans un fond qui indique son status assez haut. Alors, pour lui, c'était quelque chose de fier. Il avait une fierté sur ces marques-là. Éventuellement, quelqu'un m'a dit « Ouh, c'est assez difficile d'être en face des Anglais. On est noir, mais en plus, on est sauvage, non ?» Alors, j'ai regardé mon père. Et ce que j'avais la possibilité de voir un peu, c'était qu'il y avait une confluence entre la fierté et d'être sauvage. Et c'était mon père. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Anglais, avec ça? Rien. C'est comme ça.
Ce sujet du racisme, bon, il n'est pas présent chez vous, Alain, parce que comme tout se passe en Afrique, il n'y a pas de regard extérieur pour venir stigmatiser, mais il est présent dans les deux autres romans. C'est un sujet sur lequel c'est difficile d'écrire là-dessus. C'est difficile d'aborder la question du racisme, mais je la pose aussi à Alain, hein, parce que même si ce n'est pas dans ce roman-ci, ça peut... voilà. C'est...
Dis non.
Non, pas du tout. Non, parce que je sens vraiment si... c'est sûr, c'est une partie de mon histoire dans les États-Unis. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose, quand tu grandis avec ça, ça change ton perspective dans le monde. Tu es obligé, pour moi, de rentrer direct dans ça. Moi, je sens obligé de rentrer dans ça quand j'écris. C'est quelque chose que je peux parler plus de ça quand j'écris, si je parle avec vous comme ça. C'est dur. Parce que quand on parle de racisme, normalement, c'est un peu dur de dire la vérité. C'est un peu dur de dire, bon, quand je suis en face de vous, je ne sens pas bien. C'est assez dur de dire ça. Parce qu'on dit, non, ça va, on est tout égal, on est bien ensemble. Et oui, tu dis, bon, c'est sûr, on est bien ensemble. Mais en même temps, ça ne change pas du tout toutes les choses que j'ai grandi. J'ai grandi avec une autre perspective. J'ai grandi un peu peur de regard des autres. Et tu peux mettre ça avec un personnage. Et comme ça, les gens, j'espère, les gens, quand tu commences à lire, tu commences à comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il regarde les autres avec, pas avec la peur, mais avec un peu de résistance.
De réserve,
c'est plutôt ça, merci.
Alain ?
Je pense que c'est vrai que le racisme, d'abord, c'est une exclusion, c'est une forme de séparer, c'est une forme d'exclure, pour reprendre. Je ne l'ai pas traité, mais c'est indirectement traité dans le livre, dans Petit Piment, par le biais du tribalisme. C'est-à-dire que il y a mes personnages, des ethnies qui vivent les unes à côté des autres, ont les problèmes, par exemple, que les Français, les Belges s'élancent toujours des préjugés. Si vous êtes côtier et que vous habitez à Pointe-Noire, on vous traiterait de mangeur de requins, puisque les requins sont dans la mer. Par contre, si vous êtes dans le nord du pays, du côté du président, on dira mangeur de crocodiles, parce qu'il y a le fleuve, il y a tout. Et les laris qui sont au milieu, on les traite de mangeurs d'insectes, de chenilles, parce qu'on se dit, ils n'ont que l'herbe, il n'y a rien, donc ils mangent les chenilles qui sont là. Il y a ce racisme, il y a ce qu'on nous appelle ce tribalisme, qui en réalité gangrène la situation de l'Afrique. C'est tout comme si, à la rigueur, la confrontation entre l'homme noir et l'homme blanc n'était pas forcément la cause directe de notre situation actuelle, mais c'est à l'intérieur. Quand on vient dire à un homme noir que d'un côté il y a un Hutu et de l'autre il y a un Tutsi, et qu'on va dire aux Tutsis vous êtes les supérieurs, aux Hutus vous êtes les inférieurs, les Africains ont dit, les Blancs l'ont dit, et les Blancs ne sont pas des idiots, donc nous sommes les supérieurs. Et ça se tape dessus, c'est la même chose. Nous.
Et ça donne un génocide.
Pendant la colonisation, on arrive, on dit, voilà, les Lari ou les Congo, vous êtes les peuples dignes de gouverner. Mais les Blancs l'ont dit. Puisque le blanc est arrivé avec sa science infuse, je ne sais pas comment, il vient de dire aux Africains, et le pauvre Larry, il rentre chez les autres, il dit, bon, le blanc a toujours raison, il m'a dit que c'est moi le chef, et hop, on commence à se battre. Donc moi, la question que j'avais abordée, c'était celle-là, puis celle du métissage à travers un personnage, et ça me rappelle la situation de Gabriel, à travers un personnage, le personnage de Nyangui, qui, elle, cette femme qui travaille dans l'orphelinat, qui travaillait dans l'orphelinat à l'époque, est née d'un père cubain qui était venu faire la guerre en Angola, et puis d'une mère congolaise de Pointe-Noire. Parce qu'en Angola, quand il y avait la guerre, Agostinho Neto contre Savimbi, qui se battait pour le territoire du Congo, de l'Angola, Fidel Castro avait envoyé des Cubains pour aider Agostinho Neto de vaincre Savimbi. Savimbi avait reçu l'aide des Américains et des Sud-Africains. Les Cubains, là, quand ils avaient fini leur période de guerre pour se reposer, ils venaient en Afrique et ils venaient au Congo, jusqu'au quartier 300 dont je vous ai parlé. Donc ils croisaient des femmes et ils ont fait des enfants. Donc au Congo, il y a beaucoup de métissage cubain et congolais. Et ces enfants, moi, quand j'allais à l'école, il y avait toujours dans la classe deux petits qui étaient plus clairs que nous, avec des cheveux bouclés, et on les regardait un peu comme des extraterrestres. C'est-à-dire qu'ils nous inspiraient à la fois de la peur et de l'admiration. Surtout que dans ma classe, celui qui était là s'appelait Fanson Antoine. Ils avaient toujours des noms plutôt portugais à cause de la colonisation angolaise. Et chez nous, il était le premier de la classe. Donc les gens justifiaient ça, c'est parce qu'il est plus clair. Donc voilà, c'est ça. Donc il y avait ce racisme. François Antoine, il était toujours là, je raconte son itinéraire, demain j'aurai 20 ans, toujours vif, on ne le voyait jamais étudier, parce que nous on allait dans l'herbe, pour en étudier, en réciter, on ne le voyait jamais le petit Angolais étudier. Dès qu'il arrivait en classe, une question c'était comme un magnétophone, pouf, ça passait. Parce qu'il avait la capacité d'écouter une fois et il récitait tout ce que tout le monde avait dit. Et donc, il était toujours le premier de la classe. Quand on rentrait dans la classe, on tombait sur lui puisque nous étions placés par ordre d'intelligence. Voilà. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans la classe, les imbéciles étaient au fond. Et voilà. Donc, voilà. Mais ça bougeait au milieu de l'année. Hein. Donc, si on avait une mauvaise note, on descend, l'autre monte. Voilà. Voilà.
Gabriel, sur cette question du racisme.
Des très belles histoires ici. Oui, je suis d'accord. Je me rappelle, il y a une tribu au nord du Tanzanie, on dit ça, Tanzanie, qui s'appelle les Waha. Ils sont un mélange des Tutsi et Hutu. Alors, ils ont reçu les réfugiés du conflit de Burundi, Rwanda un peu. Ils m'ont dit, ça nous pose des problèmes parce qu'ils veulent bien faire la distinction. Qui a un visage un peu Tutsi, qui a... Mais ils sont un peuple, les Waha, mélangés. Alors, c'est bien reconnu parmi eux. Pour moi, peut-être le plus utile, c'est d'offrir une description de mon expérience d'être raciste. Quand je m'installe dans ma tête irlandaise, le premier problème que j'ai, c'est avec les Anglais. C'est-à-dire avec les Anglais protestants en Irlande. Ils ont opprimé mon peuple pendant 800 ans. Et c'est assez difficile d'être en contact avec eux comme un Irlandais catholique. Avec mon tête anglais, il y avait une grande compétition, effectivement, une compétition mondiale entre nous et les Français. Nous sommes les roast beef, je crois.
Oui,
vous êtes des
grenouilles. Et nous, on est les grenouilles. Ouais.
Pour vous toucher même, c'est un peu difficile. Mais c'est quelque chose qui en sent dans le corps. C'est assez difficile. Et c'était grâce à être aussi un Irlandais, un Nigérien, que j'avais la possibilité de prendre les cours de français à l'école et courir. Alors, je peux voir qu'il y a ces oppositions, même ces compositions d'identité qui sont basées sur une division avec des autres. Et pour moi, la seule chose qui me sauve, c'est que je peux échapper une identité et m'installer dans une autre. Par exemple, j'ai vécu une période en Afrique du Nord, au Maroc. Et là-bas, j'étais ni noir, comme en Europe, ni blanc, comme parmi les gens de mon père. J'étais marocain. On m'a accepté comme marocain. J'avais un visage marocain. Même on m'a dit, je parle comme un marocain qui est un peu malade. Mais pour moi, c'était une période dans ma vie en laquelle j'ai accepté quelque chose d'autre de mon corps, physiquement. Sais-tu?
J'avais encore plein de questions à vous poser, mais j'ai aussi envie de réserver du temps à vos questions, à vous. Donc, je propose qu'on commence à prendre tout de suite les premières questions. Elles sont les bienvenues, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro, mais on n'en a peut-être pas nécessairement besoin, on va voir. Oui, il y en a un, de toute façon. Voilà, donc est-ce qu'il y a une première question? Oui, madame. On va vous donner le micro quand même, comme ça tout le monde entendra.
Alors, est-ce que vos livres ont été traduits en allemand?
En allemand?
En allemand.
Oui. 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 Oui, c'est traduit en allemand.
Oui, et Gabriel
moi,
aussi?
Non, mes pièces sont traduites en allemand.
Voilà. Mais sinon,
mes pièces théâtrales.
Donc, oui, dans deux cas. Et pas encore pour Vauxhall.
Mais ça
ne va pas tarder.
Ça va pas tarder, juste pour signer qu'on a la chance d'avoir ces deux auteurs anglophones, Gabriel et Dino. C'est une chance parce qu'ils représentent une grande vitalité dans le monde anglophone, portée par les Salman Rushdie qui font leur... ils montrent... En France, nous devions avoir même l'humilité de lire le message que ces écrivains nous apportent. Ils montrent que l'univers, il y a beaucoup d'autres choses que notre petite personne. Il y a la charge du monde. Voyez comment ils embrassent les cultures, comment à travers leur voyage sort quelque chose dans lequel vous avez besoin de rentrer, alors même que si c'est un peu le sadomasochisme auquel on assiste, là c'est une littérature qui est faite vraiment pour durer, qui est faite aussi pour témoigner et même pour libérer beaucoup qui n'ont plus de rêve dans le continent africain. Donc pour ça, je suis content de faire aujourd'hui cette rencontre avec eux.
Voilà. Ah ouais, mais Alain, parce que nous, on peut dire exactement la même chose sur la culture d'Alain. C'est quelqu'un qui, maintenant, on connaît très bien dans les États-Unis. Avant ça, on a déjà... On n'est pas super dans les États-Unis pour lire les choses en traduction. Et on reste un peu fermé parce que aussi, en même temps, on pense, bon, si ça se passe pas en anglais, on n'était pas obligé de lire parce qu'on a, on est déjà très grande, on a déjà pas mal de gens qui n'ont pas d'origine d'ici. Pourquoi on lit les autres? Et finalement, avec l'écriture de quelqu'un comme Alain, on commence à comprendre. Ah oui, peut-être il a les autres choses qu'on comprend pas du tout. Peut-être il y a les autres choses, les autres styles d'écriture qui commencent à arriver aussi. Et ça, ça arrive avec le voir des autres, avec le, avec.
En matière d'écriture, d'ailleurs, c'est juste un tout petit commentaire. C'est, mais ça, on ne peut pas rentrer là-dedans, ça supposerait beaucoup de temps. Mais c'est vraiment trois écritures extrêmement fortes, tous les trois. Donc vraiment, je vous recommande la lecture des romans. C'est puissant, quoi. C'est vraiment des belles écritures. Oui, c'était monsieur ?
Oui, merci. Au début, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez parlé, monsieur Galamossi, du monde anglo-saxon littéraire et du monde anglo-saxon français, en disant il y a plus d'ouverture. C'est ce que j'ai compris dans le monde anglo-saxon français. C'est récent, c'est pourquoi. Vous pouvez préciser un petit peu soit l'histoire de ça. Moi, j'ai l'impression aussi que dans l'édition française actuellement, mais bon, je ne lis pas en anglais, même si je parle anglais, il y a eu une très, très grande ouverture avec certaines maisons d'édition, la littérature anglo-saxonne, nigériane en particulier, et d'autres. Et comme ça, entre l'histoire, vous pourriez un petit peu préciser, parce que vous l'avez lâché comme ça, et puis j'ai pas bien compris.
Ah bon, pardon. Alors, si je commence en disant que j'étais accepté d'être éduqué à Cambridge pendant une période dans laquelle j'étais, pendant les trois années que j'étais là, le seul gens de Bretagne noir dans l'université. C'est-à-dire l'année 80 jusqu'à 83. Aucun autre noir anglais de l'Écosse, Pays de Galles et Irlande. Ce n'était que moi. En même temps, il y avait le commencement, le début, l'éruption quoi, d'une guerre intellectuelle, surtout avec la littérature. C'est-à-dire, on les appelait à l'époque les structuralistes et les traditionalistes. Les structuralistes, ils étaient effectivement les gens qui ont lu les penseurs, les maîtres à penser français. Lévi-Strauss, le structuralisme, jusqu'à Derrida. Mais y compris Foucault, le plus important. C'est à travers ces penseurs français qu'on était libéré d'une une tradition, une discipline fermée autour d'une identité anglophone qui était menée par l'Empire. Même l'éducation à l'époque, à les écoles, les collèges, ils étaient menés vers la formation des administrateurs pour l'Empire. Et à cette époque-là, l'année même, 1980, il y avait l'éruption à Cambridge de ces grands débats. Alors, ce que je pouvais voir à travers cette grande guerre, c'était la possibilité qui offrait les Français sur l'identité, sur l'histoire, sur la possibilité d'être hors d'une certaine question d'identité littéraire anglophone. C'est ça qui m'a offert à l'époque les Français. C'était le commencement, tout simplement.
Une autre question ? Oui ? Où est le micro ? Ah voilà, il arrive.
Le titre de la table ronde, Afrique au pluriel, combien d'Afrique peut y avoir, selon vous? Selon moi, il y a l'Afrique, vous avez cité l'exemple de l'Angola, les Angolaises et les Angolais, ils avaient beaucoup plus une tendance envers le Zaïre, le Congo, que vers l'autre voisin qui est anglo-saxon. Parce que l'Afrique actuelle, il y a l'Afrique anglo-saxonne, qui a connu le colonialisme britannique, qui s'est emparé de la vertu des Britanniques, qui est l'esprit d'entreprendre. Il y a une deuxième Afrique, une dernière, qui est l'Afrique latine, lusophone, arabophone, francophone, hispanophone, qui n'a retenu que le pire de l'ère coloniale. Ça, c'est mon point de vue personnel. J'aimerais bien vous entendre. Merci.
Ah, ça mérite des commentaires. Hein. Ouais.
Non, mais quand, je pense que ce qu'il dit... est vrai.
C'est vrai.
Et important.
Ouais.
C'est-à-dire que ça se voit quand même les conséquences de la colonisation quand vous mettez un anglophone et un francophone. Les conséquences sont là. C'est-à-dire que le problème de la France, c'est que en dehors du fait que la colonisation permettait à la puissance française de s'enrichir ou quoi, mais elle était obnubilée, la France, à l'idée d'inculquer aux petits nègres toute sa culture. Voilà, l'école de Jules Ferry, tout, et parler comme donc, vous cassez tout. Mais les anglophones n'étaient pas venus pour dire aux Yoruba de cesser d'être Yoruba. Ils étaient déjà préoccupés pour créer leur comptoir, faire leur commerce, s'enrichir vite. Et quand ils sentaient que ça commençait à sentir les Russies, ils se barraient. Tandis que la France attrapait l'Algérie par le mollet, on ne veut pas lâcher l'Algérie. Donc il y avait, il y a cette colonisation qui fait que, par exemple, Gabriel a connu ces intellectuels français qui ont créé vraiment l'esprit des libérations. C'était le monde anglophone qui captait ces idées-là. Les Deleuze, les Derrida ou quoi, la France ne les traitait pas comme il fallait qu'ils fussent traités. C'est les Américains, ils enseignaient plus aux Américains ici, ils n'avaient même pas de chair ou quelque chose comme ça. Mais ces intellectuels qui pensaient ont été aussi magnifiés par le fait que des écrivains comme James Baldwin sont venus ici à cause ou grâce à cette pensée africaine de liberté. Mais au fond, quand dans les années 60, il y avait encore les conséquences juste après la guerre, on trouvait bien la différence que faisaient les Français entre les Noirs américains et les tirailleurs sénégalais qu'ils avaient sous les aisselles. C'est-à-dire pour eux, les Noirs sauvages étaient les tirailleurs sénégalais et que le Noir américain avait rehaussé son image puisqu'il était venu libérer la France dans Normandie. Donc on voyait bien cette image. Et du coup, même James Baldwin, le reproche qu'il aura fait longtemps à des écrivains comme Richard White, c'est de dire pourquoi vous n'avez jamais parlé du sort des Africains francophones qui étaient en France et qui étaient traités presque de citoyens de seconde zone, alors que le Noir américain, quand il arrivait, gonflé justement du prestige de l'Amérique, il était presque au-dessus, il y avait l'étage. Et Baldwin disait même dans un de ses essais que si j'avais été un noir africain de l'espace francophone, je n'aurais jamais eu le traitement que j'avais eu lorsque je vivais en France. C'est tout ce qu'il vient de dire et je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est maintenant que nous essayons de recréer ces ponts avec cette nouvelle génération. On se reconnaît parce qu'on a les mêmes histoires. On essaie de recréer les ponts pour que le monde francophone et le monde anglophone se parlent. On nous mettait le mur, hein. Ça arrangeait tout le monde. Les anglophones de l'autre côté, les francophones là, on fait la littérature de la même manière. Dino dit qu'on se dit pourquoi écrire en français alors que l'anglais est plus grand. Nous aussi, on se disait l'anglais, c'est pas la langue, il y a trop de répétitions, alors que la langue française, c'est la plus belle au monde. Et on se rend compte que non, le problème de la littérature, c'est comment témoigner un univers dans son originalité, quelle que soit la langue d'écriture, français, yoruba, flamand, c'est la beauté de l'écriture qui compte.
Absolument. Mais sur cette question, quand même, Dino et Gabriel, c'est intéressant. Est-ce que vous accréditez cette idée de deux Afriques, d'une part Afrique anglophone et d'autre part Afrique latine, qui engloberait les francophones, les lusophones, et vous avez dit aussi les arabophones, et ça me semble, voilà, je sais pas, là-dessus, moi j'ai un petit doute, hein, personnellement, mais bon, mais j'aimerais bien avoir votre commentaire là-dessus, vous qui regardez cette Afrique latine de votre point de vue d'anglophone.
Je pense que j'ai compris la question. Peut-être pas. Mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit, bon, l'Afrique, c'est un mythe. Mm-hmm. Pour dire, ça, c'est un tableau rond d'Afrique. C'est un mythe, parce que l'Afrique, c'est sûr, ça n'existe pas. C'est quoi? Ouais, c'est l'Europe, mais avec 54 pays, il y a plus de 800 millions de gens, avec quelques milliers de langues.
Combien de langues
au Congo? Au Niger, il y a 250, quelque chose comme ça.
Au Congo, c'est combien de langues déjà?
Plus de 300.
Plus de 300 langues, oui, voilà. Donc en Afrique, les langues, c'est.
Et avec toutes les grandes différences dans notre histoire de colonisation, de politique, de langue, on est là ensemble, bien sûr, pour parler d'Afrique, mais en même temps, on a, c'est sûr, il a un lien entre nous, mais ça, je peux pas dire en français. Enfin.
Gabriel, peut-être.
Je suis pas certain comment engager avec la question. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, le nord, l'ouest, l'est, le sud. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a des zones d'influence liées à un colonialisme passé ou un colonialisme qui continue à travers les Français et contrôle l'argent même de ces pays. Mais je suis souvent conscient de les séparations, les divisions. Et aussi des autres liaisons. Par exemple, le swahili. C'est la langue commune en Kenya, Uganda et le Tanzanie. Mais c'est aussi connu à Mali, un peu, Malawi, un peu en Zambie, le Zambie. Alors, il y a les zones dans lesquelles les gens sont en contact à travers une langue, en ce cas, sinon une politique, une histoire. Ils sont en train de création. Il y a bien la possibilité d'être créatif, de changer les choses à travers ces échanges. Et si, par exemple, on est francophone, en Afrique de l'Ouest, de Cameroun, Sénégal, il y a des différences. Par exemple, en Sénégal, c'est une situation parmi les gens en lequel la société est divisée en castes. Ça se dit en français caste. Oui. Les nobles, les griots, les gens qui vendent et qui achètent. Et ce que j'ai vu, c'était Yusundor pendant un grand concert au Théâtre National de Daniel Serrano. Il était en pleine chanson, comme ça, pour une grande célébration. C'était la fin de l'année, je me rappelle. Et puis, tout d'un coup, les griots sont arrivés. Ils ont lâché l'électricité pour les instruments. Il y avait un silence. L'humiliation pour Yusundor, parce qu'il est hors de caste. C'était son père qui était le noble. Et on avait de la chance avec la troisième femme d'avoir une femme griot. Et c'était lui l'enfant. Alors il est hors de caste. L'humiliation dans cette situation, c'était une partie d'une telle culture. Ça appartient pas à une francophonie de Cameroun. Il y a des autres difficultés. Mais pour moi, ça, c'était la difficulté de cette société, ces gens-là. Ses choix, parce que c'était devant une public de tous les nobles, tous les grands gens de Dakar. Et ça me donnait quelque chose à penser.
Oui.
Pas un grand point, mais une expérience qui m'a dit quelque chose.
Je suis désolée, on est vraiment obligé d'arrêter. Moi aussi, j'ai encore plein de questions à leur poser, et vous aussi, mais je vous invite à venir les rencontrer après. Je voudrais juste rappeler que donc Vauxhall, le roman de Gabriel, est publié aux éditions Zoé. Le roman de Dino Mangestu est publié chez Albin Michel. Et le roman de Alama Bankou, Petit Piment, aux éditions du Seuil. Merci infiniment à vous trois. C'était un beau moment.
Merci.